VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde Aujourd'hui, édition du mardi 12 juillet 2022. Jean-Roger Bion à ce micro. Bonsoir à tous. À la une de nos informations, l'ex-préfet rwandais Laurent Boukibaruta, condamné à 20 ans de prison en France pour complicité dans le génocide rwandais. La Côte d'Ivoire demande aux autorités maliennes de libérer sans délai les militaires ivoiriens justement arrêtés selon Abidjan. La campagne pour les législatives du 31 juillet se poursuit au Sénégal, mais ne passionne pas les foules pour le moment. Le président du Sri Lanka cherche à quitter son pays après avoir été chassé par une révolte populaire. Les obsèques de Shinzo Abe au Japon, des milliers de personnes se sont recueillies sur le passage du cortège funèbre de l'ancien Premier ministre. Ne manquez pas dans cette session d'information la Minute Éco et les sports, mais tout d'abord le journal. Un ancien préfet rwandais, Laurent Boukibaruta, a été condamné par la Cour d'assises de Paris à 20 ans de réclusion criminelle pour complicité de génocide, plus de 28 ans après l'extermination des Tutsis au Rwanda. Le point avec Dani Talani.
L'ancien fonctionnaire, 78 ans, a été acquitté en tant qu'auteur de génocide, mais reconnu coupable en tant que complice de génocide et de crimes contre l'humanité pour 4 massacres, au terme de près de 11 heures de délibéré. Laurent Boukibaruta, qui comparaissait libre, était sous contrôle judiciaire depuis le 9 mai. Il va passer la nuit en prison. Il a été escorté par des gendarmes peu après l'énoncé du verdict. La cour l'a totalement acquitté des accusations de génocide commis à la paroisse de Kibéo le 14 avril 1994, ainsi que celles concernant les exécutions de prisonniers Tutsi à la prison de Kigongoro. Elle a reconnu coupable de génocide pour les massacres de l'école de Murambi et des paroisses de Tianika et de Kadua, tous commis le 21 avril 1994. Il était le plus haut responsable rwandais jamais jugé en France pour des crimes liés au génocide. Laurent Boukibaruta a 10 jours pour faire appel de sa condamnation.
Le Conseil national de sécurité de Côte d'Ivoire demande aux autorités maliennes de libérer sans délai les 49 militaires ivoiriens injustement arrêtés selon Abidjan. Selon ce conseil, une copie de l'ordre de mission a été transmise aux autorités aéroportuaires maliennes pour attester de la régularité de la mission. Le Conseil national de sécurité assure que toutes les dispositions sont en cours pour obtenir la libération rapide des soldats ivoiriens. Le président de la Cour constitutionnelle du Bénin, Joseph Diogbeno, a démissionné de son poste, a annoncé cette institution ce mardi, à 6 mois des élections législatives de janvier 2023. Hier, M. Diogbeno avait été reçu en audience par le président béninois, Patrice Talon, à Cotonou, sans faire aucune déclaration à la sortie de cette rencontre. Cet ancien avocat personnel de M. Talon était à la tête de l'institution depuis juin 2018 et son mandat prenait fin en juin 2023. Au Sénégal, la campagne électorale qui a commencé ce dimanche n'attire pas grand monde pour le moment. Après une période préélectorale tendue, le calme semble être revenu pour des raisons que nous détaille notre correspondant à Dakar, Sidina Bagay.
La fête de l'Eid, communément appelée Tabaski au Sénégal, est l'une des premières causes de ce manque d'engouement des Sénégalais pour le début de la campagne électorale. La pression sociale qui entoure cette fête et la conjoncture actuelle ont amené les citoyens à se désintéresser progressivement de la chose politique pour assurer l'achat du mouton et les dépenses familiales liées à la Tabaski. Pour contourner ce fait, les hommes politiques ont ainsi choisi de commencer leur campagne par des visites de proximité auprès des chefs religieux et ces derniers ont appelé tous les acteurs à œuvrer pour la pacification de l'espace public afin de préserver la cohésion sociale et ainsi avoir des élections législatives apaisées. Cette année, 8 coalitions sont en lice pour le scrutin du 31 juillet 2022 et l'enjeu majeur pour l'opposition, c'est de glaner le maximum de sièges possibles pour imposer une cohabitation à la coalition au pouvoir jusqu'à la présidentielle de 2024. Seydina Bagay à Dakar pour VOA Afrique.
Le gouvernement éthiopien a chargé aujourd'hui un organisme de l'ONU de reconstruire certaines infrastructures détruites au Tigré, région en conflit avec Addis Abeba et contrôlée par des autorités rebelles dans le cadre d'un projet financé par la Banque mondiale. Le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet se chargera notamment de reconstruire les infrastructures procurant des services essentiels affectés par le conflit. La marine marocaine a intercepté entre samedi et mardi 257 24 migrants se trouvant à bord d'embarcations de fortune, de kayaks et même à la nage en Méditerranée et dans l'Atlantique, selon une source militaire citée par l'agence MAP. Parmi ces migrants figurent une majorité d'Africains, dont des femmes et des enfants, ainsi qu'un Afghan et un Yéménite. Ils ont été acheminés sains et saufs à terre après avoir reçu les soins nécessaires. Selon cette source militaire, ces opérations de sauvetage surviennent 2 semaines après la tentative de passage en force de près de 2000 migrants dans l'enclave espagnole de Melilla le 24 juin.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Sri Lanka, face au mouvement de protestation populaire, le président envisage de quitter le pays en bateau. Il a été refoulé à l'aéroport de Colombo par des agents de l'immigration. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
La meilleure option maintenant est de sortir par la voie maritime, a déclaré un responsable de la défense, ajoutant que le président Gotabaya Rajapaksa pourrait aller aux Maldives ou en Inde et prendre un vol pour Dubaï. Un vaisseau de la marine avait déjà été utilisé samedi pour le transférer du palais présidentiel assiégé par les manifestants vers le port de Trincomalee dans le nord-est du pays. M. Rajapaksa a rejoint hier en hélicoptère l'aéroport international de Colombo où les responsables de l'immigration lui ont refusé l'accès au salon VIP pour faire viser son passeport. Il voulait éviter le terminal public craignant la réaction de la population. Le président Rajapaksa a promis de démissionner demain mercredi. Élu en 2019, il est accusé d'avoir mal géré le pays en manque de devises étrangères pour financer les importations les plus essentielles à la population. En avril, Colombo a fait défaut sur sa dette extérieure de 51 milliards de dollars. Le Sri Lanka a presque épuisé ses réserves d'essence.
Au Japon, les funérailles de l'ancien premier ministre Shinzo Abe, assassiné vendredi dernier à l'âge de 67 ans, se sont déroulées dans le centre de Tokyo. Des milliers de personnes sont venues lui rendre un dernier hommage sur le passage du cortège funèbre. Nani Talani.
La cérémonie s'est déroulée au temple bouddhiste Zojo-ji à Tokyo en présence du premier ministre en exercice Fumio Kishida et de la veuve de M. Abe, tenant devant elle la tablette de bois où était inscrit le nom posthume de son mari selon la tradition bouddhiste. De nombreux Japonais se sont rendus devant le temple pour rendre hommage à celui qui détenait le record de longévité au poste de premier ministre. Après la cérémonie, le cortège funéraire a quitté le temple pour passer devant des institutions politiques où M. Abe a officié au cours de sa carrière. Des ministres, des responsables et des employés se sont inclinés, les mains jointes, au passage du corbillard. Shinzo Abe a été attaqué à l'arme à feu vendredi alors qu'il participait à un meeting électoral à Nara en vue des élections sénatoriales de dimanche. D'ailleurs, son parti, le PLD au pouvoir, a remporté la victoire. Son assassin présumé, Tetsuya Yamagami, 41 ans, ex-membre de la marine japonaise, explique avoir délibérément visé M. Abe parce qu'il en voulait à une organisation religieuse à laquelle sa mère aurait versé des dons importants, mettant leur famille en grande difficulté. Il croyait que Shinzo Abe en était membre alors qu'il ne l'était pas.
Le chef du groupe État islamique en Syrie a été tué aujourd'hui dans une frappe de drone américaine dans le nord-ouest du pays, a annoncé le Pentagone. Maher al-Ghal, présenté comme l'un des 5 plus hauts dirigeants de l'État islamique, a été tué alors qu'il roulait à moto près de la ville de Jindires et son plus proche conseiller a été gravement blessé, a précisé le porte-parole du commandement central du Pentagone, le lieutenant-colonel Dave Eastburn. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté aujourd'hui une résolution prévoyant un prolongement de 6 mois jusqu'au 10 janvier du mécanisme d'aide transfrontalier à la Syrie, une durée imposée par la Russie alors que tous ses partenaires voulaient 1 an. La résolution a été adoptée par 12 voix sur 15, celle de la Russie, de la Chine et des 10 membres non permanents du Conseil de sécurité. Les États-Unis, le Royaume-Uni et la France se sont abstenus pour marquer leur désaccord avec une durée qu'ils jugent insuffisante pour planifier correctement l'acheminement de l'aide. Les États-Unis vont verser une nouvelle tranche d'aide économique à l'Ukraine d'un montant d'1,7 milliard de dollars, a annoncé aujourd'hui La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, cette nouvelle tranche est transférée au gouvernement ukrainien via la Banque mondiale et fait partie d'un volume d'aide économique de 7,5 milliards de dollars de la part des États-Unis promis à Kiev au mois de mai. Et puis, les délégations militaires de Turquie, Russie et d'Ukraine vont discuter demain mercredi à Istanbul avec des représentants des Nations Unies du transfert des stocks de céréales bloqués dans les ports ukrainiens, a annoncé le ministre turc de la Défense. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nani Talani.
Les créanciers de la Zambie et de l'Éthiopie doivent se rencontrer avant fin juillet pour promouvoir les efforts pour réduire le fardeau de leurs dettes. La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, est plus optimiste sur la Zambie où la Chine, le plus grand créancier, a accepté de co-présider le comité officiel des créanciers. Les créanciers de l'Éthiopie ont tenu une réunion présidée par Pékin et Paris en 2021, mais de nouveaux progrès ont été freinés par la guerre dans le pays. La société d'exploitation minière Premier Africa Minerals va commencer à expédier du concentré de spodumène, un minéral constitué de lithium et d'aluminium, à partir de sa mine Zulu au Zimbabwe vers la Chine d'ici mars 2023, après avoir signé un accord avec l'entreprise chinoise Suzhou. Cette dernière injecte 35 millions de dollars pour la construction d'une usine pilote de grande capacité à Zulu. La production annuelle sera de près de 50 000 tonnes de concentré de spodumène. Pour terminer, des délégations russes et ukrainiennes ainsi que des représentants de l'ONU vont se rencontrer mercredi à Istanbul en Turquie pour discuter de la reprise des livraisons par la mer Noire de céréales bloquées. Cette réunion quadripartite intervient dans un contexte de hausse mondiale des prix des denrées alimentaires due en partie à l'invasion russe de l'Ukraine, l'un des principaux exportateurs mondiaux de blé et d'autres céréales.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Rui Vitória nommé sélectionneur de l'Égypte.
Oui, l'ancien entraîneur portugais du Benfica Lisbonne succède à Ayab Galal, limogé en juin dernier, seulement 2 mois après sa prise de fonction, pour mauvais résultats. Rui Vitória va diriger les Pharaons pendant les 4 prochaines années, annonce la Fédération égyptienne de football. À la tête du Benfica, où il a passé 4 saisons de 2015 à 2019, Rui Vitória a décroché 3 titres de champion du Portugal. L'Égypte ne participera pas à la prochaine Coupe du Monde au Qatar, après avoir échoué à se qualifier face au Sénégal en mars dernier. À l'époque, les Pharaons étaient dirigés par un autre Portugais, Carlos Queiroz, ensuite remplacé pour une courte durée par Galal.
Transfert, Cheikh Doucouré quitte Lens.
Le milieu de terrain malien de Lens s'est engagé pour 5 ans avec Crystal Palace, a annoncé le club de Première Ligue. Le montant du transfert est estimé à 23 millions d'euros par des médias britanniques. Né à Bamako et formé à l'Académie Jean-Marc Diou au Mali, Cheikh Doucouré, 22 ans, avait rejoint le RC Lens en 2018. Il a disputé 131 matchs et marqué 8 buts sous le maillot sang et or et compte également 8 sélections avec les Aigles du Mali.
Football toujours, le championnat ukrainien va reprendre en août.
L'annonce a été faite par le ministre de la Jeunesse et des Sports de l'Ukraine, Vadim Guzek, qui précise que le championnat débutera le 23 août. Il assure que les matchs de la nouvelle saison se dérouleront sur le territoire ukrainien, mais sans spectateurs et dans le respect obligatoire des règles de sécurité décrétées. Les clubs de football ukrainiens avaient décidé le 26 avril de mettre fin de manière anticipée à la saison précédente, suspendue en février en raison de l'offensive russe, sans désigner de champion.
La star de l'athlétisme Mo Farah révèle sa vraie identité.
La plupart des gens me connaissent sous le nom de Mo Farah, mais ce n'est pas la réalité. J'ai été séparé de ma mère, emmené au Royaume-Uni illégalement, sous le nom d'un autre enfant appelé Mohamed Farah, explique le quadruple champion olympique. À 39 ans, Mo Farah raconte avoir reçu ce nom d'une femme qui l'avait fait venir au Royaume-Uni, lui affirmant qu'il y rejoindrait des proches depuis Djibouti à l'âge de 9 ans. L'athlète, auteur du doublé 5000 mètres, 10 000 mètres aux Jeux olympiques de Londres en 2012, puis de Rio en 2016, dévoile qu'il se nomme en réalité Hussein Abdi Kahin. Son père a été tué en Somalie lorsqu'il avait 4 ans. Sa mère et 2 frères vivent dans la région séparatiste du Somaliland. Il dit être né au Somaliland, au nord de la Somalie, et non à Mogadiscio, comme il avait fait savoir. Le champion olympique ne sera pas poursuivi au Royaume-Uni après ces révélations, a indiqué le ministère de l'Intérieur.
Page des sports VOA Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Face à la cherté de la vie en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Patrick Hachi a expliqué les causes de la flambée des prix des denrées sur les marchés et les mesures prises par le gouvernement ivoirien pour faire face. Les détails avec Delphine Boise, notre correspondante à Abidjan.
En Côte d'Ivoire, le coût de la vie est extrêmement cher et la population n'arrive pas à contenir son désarroi.
Je voulais demander à l'État s'il peut faire quelque chose pour nous, on n'a qu'à le faire dès maintenant. Parce qu'on souffre. Plus facile.
Face à cette situation difficile engendrée par la guerre en Ukraine, le Premier ministre Patrick Hachi est monté au créneau pour tenter de rassurer les populations. Et selon lui, le gouvernement ivoirien a pris à bras le corps la question du respect des prix plafonnés pour lutter contre la vie chère.
Depuis la survenue de la crise, c'est environ 35 000 contrôles qui ont été effectués. Et au cours de ces contrôles, c'est vrai, nous nous sommes rendus compte qu'il y a 2000 cas de non-respect du prix que nous avons constaté, donc de fraude, qui d'ailleurs ont été sanctionnés. D'ailleurs, le mois dernier, au mois de mai, on a dû faire payer environ 87 millions de francs d'amende. Donc, ces contrôles sont importants, ces contrôles sont renforcés, ces contrôles vont continuer, et ils vont s'intensifier également en milieu rural, sur l'ensemble du territoire national.
Pour autant, a-t-il convaincu l'Ivoirien moyen qui se bat au jour le jour pour rejoindre les deux bouts?
Bon, déjà, il faut dire que le fait de plafonner les prix est déjà une bonne chose. Ça prouve qu'ils prennent conscience des problèmes de la population et ils essaient de trouver des solutions.
Souvent, les prix sont plafonnés, mais c'est pas respecté.
Sa sortie était bonne. La sortie était bonne parce qu'il faut dire qu'actuellement, la vie est très, très chère. C'est très difficile.
La pauvreté en Côte d'Ivoire, sincèrement, soyons clairs, il ne faudrait pas qu'on se casse le visage. L'État fait son effort, mais sincèrement, la pauvreté, ça n'a pas reculé.
Delphine Boise, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Cameroun, le gouvernement a demandé une aide alimentaire d'urgence pour plus de 2 millions de familles souffrant de la faim le long de ses frontières avec le Tchad et le Nigeria. Lors d'une réunion de crise tenue lundi à Yaoundé, les autorités ont imputé aux catastrophes naturelles, à l'insécurité et aux affrontements intercommunautaires une partie des causes de la pénurie alimentaire dans ce pays de 26,5 millions d'habitants. Le reportage de Moki Edwin Kinzeka depuis Yaoundé, le récit est de Lionel Gaïma.
Le ministre de l'Agriculture Gabriel Mbarobé affirme que les inondations et les éléphants ont dévasté plusieurs centaines d'hectares de terres agricoles, d'élevage, de volailles et de cultures, et tué un nombre inconnu de bovins, de moutons et de chèvres au cours des 6 derniers mois.
Il y a eu des attaques de chenilles légionnaires qui ont dévasté les récoltes. Il y a eu des attaques des oiseaux granivores et des criquets migrateurs. Et l'analyse que nous avons faite a révélé que nous avons 1% de la population qui est en situation de crise ou de famine, c'est environ 257 000 personnes. Nous avons à peu près 2 600 000 personnes qui sont sous pression, qui peuvent à tout moment basculer en situation de crise alimentaire. Et nous avons au total 6 millions de personnes qui sont en situation d'insécurité alimentaire.
S'exprimant à Yaoundé lundi au cours d'une réunion de crise, M. Mbairobé a déclaré que la plupart des civils pauvres menacés par l'insécurité alimentaire ont du mal à faire face à la hausse de prix causée par la guerre de la Russie en Ukraine. Le gouvernement camerounais attribue à la guerre une augmentation de 15 à 30% du prix des denrées alimentaires de base, notamment le blé, le maïs, le sorgho et le riz, largement consommés dans les régions situées le long de la frontière nord avec le Nigeria et le Tchad. Le Cameroun dépend de l'Ukraine pour 60% de ses importations de blé. La guerre a fait grimper le prix d'un sac de blé de 50 kilos de 35 à 60 dollars, un montant que la majorité de personnes affamées ne peuvent se permettre, selon le gouvernement. Ephraim Chi possède une plantation de maïs à Pousse, une ville à la frontière avec le Tchad. Il dit que les conditions météorologiques imprévisibles et les changements climatiques font qu'il est difficile pour les agriculteurs de savoir quand planter.
Parfois nous restons longtemps sans pluie et parfois les pluies deviennent intenses. Donc les agriculteurs ne savent plus quand planter leurs cultures et c'est pourquoi nous avons beaucoup de mauvais rendements maintenant. Les gens coupent beaucoup d'arbres et ces arbres régulent le climat. Lorsque le sol est si sec parce que nous avons abattu beaucoup d'arbres, les bassins, versants, collections d'eau s'assèchent.
Selon les autorités camerounaises, plus de 40 000 personnes, dont une majorité d'éleveurs, d'agriculteurs et de pêcheurs, prévoient toujours de retourner dans la région frontalière, bien qu'elle ait fui les affrontements sanglants de décembre 2021 pour les ressources en eau. Le gouvernement n'a pas dit de combien il avait besoin pour réduire la crise alimentaire, mais il est en négociation avec des organismes de financement et des pays amis. La semaine dernière, le gouvernement japonais a fait don de 1,2 million de dollars au programme alimentaire mondial pour aider les personnes vulnérables menacées par la faim au Cameroun, au Tchad et en République centrafricaine.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
Le président américain Joe Biden arrive demain mercredi en Israël pour sa première visite au Moyen-Orient depuis son arrivée au pouvoir. Il va s'envoler directement d'Israël pour l'Arabie Saoudite, une décision que le dirigeant américain a qualifiée de symbolique. Israël espère que cette visite ouvrira une nouvelle ère diplomatique avec l'Arabie Saoudite. Le reportage de Linda Gradstein depuis Jérusalem, récit Mohamedou Mfa.
Les autorités israéliennes disent espérer que la visite du président Joe Biden sera une opportunité pour relancer les relations diplomatiques entre Israël et l'Arabie Saoudite. Yair Lapid, premier ministre israélien.
De Jérusalem, l'avion du président Joe Biden va s'envoler pour l'Arabie Saoudite et il va emporter avec lui un message de paix et d'espoir de notre part. Israël tend la main à tous les pays de la région et les appelle à nouer des liens avec nous, établir des relations avec nous.
Les observateurs israéliens pensent que si cette relation diplomatique ne devrait pas s'établir dans l'immédiat, le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman évolue progressivement dans cette optique, parallèlement à d'autres réformes. C'est l'avis du professeur Jonathan Reinhold, spécialiste des relations israélo-américaines à l'université Bar-Ilan de Tel Aviv.
He knows that Saudi Arabia is going to no longer be able to finance.
Il sait que l'argent du pétrole ne suffira bientôt plus à financer tous les besoins de l'Arabie Saoudite et qu'à l'horizon, son pays doit se moderniser. Et le pays qui réussit le mieux dans la région à le faire et qui est un partenaire économique naturel est Israël. Et également, stratégiquement, le seul pays qui s'est avéré capable de contenir l'Iran en Syrie et dans la région est Israël. Les Saoudiens respectent cela.
Le président Biden devrait annoncer la mise sur pied d'un groupe de défense régionale comprenant Israël et l'Arabie Saoudite, concrétisant une initiative évoquée lors de récentes réunions du sommet entre Israël et ses partenaires arabes de la région. Les Palestiniens, quant à eux, ne seront pas invités à rejoindre ces alliances régionales auxquelles ils sont farouchement opposés. Bien que le président Biden va rencontrer le président palestinien Mahmoud Abbas lors de cette visite au Moyen-Orient, Mohamed Chtaye, premier ministre palestinien.
Les réunions de normalisation avec le monde arabe sans mettre fin à l'occupation ne sont qu'une illusion, un mirage et un cadeau gratuit pour Israël.
Lors de son escale en Arabie Saoudite, le président Biden va chercher à réchauffer les relations qui ont pris un coup après le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi en 2018 en Turquie. Joe Biden devrait aussi encourager une augmentation de la production de pétrole de l'OPEP pour remplacer le pétrole russe. Najat Al-Assid, journaliste américano-saoudienne.
Si les Saoudiens perçoivent ce voyage comme une simple visite pour intimer l'ordre aux Saoudiens d'augmenter la production de pétrole, je vous dis que cela ne marchera pas car il y a beaucoup de choses à discuter avant cela. Pour l'essentiel, la visite doit être axée sur la sécurité nationale, la sécurité des Saoudiens face à la menace iranienne.
En effet, la menace iranienne est un autre point de consensus entre Israël et l'Arabie Saoudite.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis sont sous le choc après une récente vague de fusillades de masse. Certaines technologies se concentrent sur la manière de prévenir les pertes. Julie Tabou a rencontré quelques entrepreneurs qui ont développé des technologies de détection d'armes à feu. Yacouba Ouedraogo raconte.
J'ai entendu des coups de fusil.
Je vois des cadavres au sol.
La violence armée aux États-Unis a atteint des proportions épidémiques.
Je suis vraiment terrifié.
Et beaucoup d'Américains en ont marre.
Nous sommes furieux. Nous sommes dégoûtés.
Le pays est divisé sur le port et le contrôle des armes à feu. Les récentes fusillades de masse dans une école primaire, un supermarché et lors d'un défilé communautaire pendant la fête nationale ont mis en lumière certaines technologies contribuant à réduire les décès par armes à feu. Mike Lehiff est le PDG de Zero Eyes, une société d'analyse vidéo qui vend des logiciels avec intelligence artificielle, travaillant avec les caméras de sécurité existantes afin de détecter une arme.
C'était peu de temps après la fusillade de l'école à Parkland en 2018. L'école de ma fille a commencé à faire des exercices de tir actif. Elle est rentrée à la maison, bouleversée, et nous avons dit que c'en était assez, qu'il fallait faire quelque chose.
L'incident a fait germer une idée.
J'ai vu des gens utiliser la technologie de reconnaissance faciale et je me suis dit, et si nous utilisons les caméras de sécurité existantes pour détecter les armes?
La société de Lehiff, Zero Eyes, a développé un logiciel de détection d'armes à feu qui utilise l'intelligence artificielle pour analyser les données des caméras de sécurité existantes afin de rechercher une arme à feu.
Cette alerte est envoyée à notre centre d'opération Zero Eyes, ici hors de Philadelphie, qui est doté d'anciens combattants 24 heures sur 24. Puis ils la regardent et disent, est-ce vraiment une arme à feu? Et si c'est une arme à feu, cette alerte est transmise à nos clients et va simultanément à la police.
Ils ont alors une photo du tireur potentiel, du type d'arme qu'il détient et de l'endroit où il se trouve.
Ce type d'information exploitable est essentiel dans ces situations pour réduire les temps de riposte.
L'école secondaire régionale de Rokangas Valley, dans le New Jersey, a été la première à implémenter le logiciel. Christopher Heilig est l'intendant de cette école.
Lorsque nous avons eu un exercice de tir actif avec cette technologie, ça nous a vraiment ouvert les yeux sur la valeur de Zero Eyes.
L'école a organisé un exercice de tir actif avec la technologie. Cela les a conduits à la personne armée en 90 secondes environ, la moitié du temps qu'il faut dans le même exercice sans technologie.
Dans ces situations, il s'agit de minimiser le temps, ce qui minimise les pertes.
Pour les grands lieux publics, certains se sont tournés vers Evolve Technology, qui a des scanners qui utilisent des capteurs à ondes millimétriques et d'autres technologies. Ils peuvent détecter rapidement les armes à feu et autres, permettant à des milliers de personnes d'entrer dans un espace avec un minimum de perturbations. Peter George est le PDG d'Evolve Technology.
Nous utilisons une technologie de pointe comme l'intelligence artificielle pour trouver et faire la distinction entre un téléphone et une arme à feu. Par exemple, les choses que vous transportez normalement et quelque chose qui représente une menace réelle.
Jusqu'ici, il y a eu plus de 300 fusillades de masse aux États-Unis. Bien que ces technologies ne puissent pas garantir la prévention d'autres fusillades, elles font partie des efforts visant à assurer la sécurité dans les espaces publics.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Georges Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.